Terroir Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, édition de 18h30 temps universel du jeudi 16 janvier 2020. Et Kabadou à la présentation. Voici les titres. Les pays anglophones d'Afrique de l'Ouest rejettent l'écho, la monnaie proposée par Alassane Ouattara. En Guinée, la campagne pour les législatives du 16 février démarre ce soir à minuit. L'opposition qui boycotte ce scrutin met une pause à ses manifestations. La conférence internationale sur la Libye est prévue dimanche à Berlin, en Allemagne. Michael Mishustin confirmé par la Douma comme le nouveau Premier ministre russe. Et puis ne manquez pas dans 10 minutes l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. 5 pays anglophones d'Afrique de l'Ouest ainsi que la Guinée réunie à Abuja ont rejeté l'écho, la nouvelle monnaie commune de la CEDEAO prônée par le président ivoirien Alassane Ouattara. À Abuja, les précisions de Gilbert Tamba.
Il s'agit des ministres des Finances du Nigeria, de la Guinée, de la Sierra Leone, du Ghana, du Libéria et de la Gambie. À l'issue d'une concertation aujourd'hui à Abuja, ils ont accusé le président ivoirien Alassane Ouattara d'avoir unilatéralement pris la décision de création de l'écho sans consulter les autres pays membres de la CEDEAO. Les gouverneurs des banques centrales de ces pays ont également pris part à cette rencontre. Les 6 pays appellent à une réunion urgente des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour discuter de la monnaie unique régionale. En décembre, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé que le franc CFA serait renommé ECO. Le franc CFA est utilisé par 8 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les ministres ont indiqué que l'action du président Ouattara n'est pas en droite ligne avec les décisions des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui ont adopté ECO, le nom de la nouvelle monnaie indépendante commune de la CEDEAO.
En Guinée, c'est ce soir à minuit que la campagne pour les législatives du 16 février sera lancée. Selon la Commission électorale nationale indépendante, 29 partis politiques sont retenus pour le scrutin des listes nationales. La campagne démarre ainsi 2 jours après les violences en marge des manifestations contre le projet de nouvelle constitution. On fait le point avec notre correspondant Guinée, Zakaria Camara.
Le décret a été lu à la télévision nationale et précise que la campagne qui démarre cette nuit prendra fin le 14 février à minuit. Un fait majeur, ce processus électoral risque de se dérouler sans la participation de l'opposition qui a décidé de le boycotter et même de l'empêcher d'aller à terme. Si ces élections ont lieu le 16 février, l'Union des forces démocratiques de Guinée du chef de file de l'opposition, Cellou-Dalein Diallo, ou encore l'Union des forces républicaines de Sidya Touré, seraient entre autres les grands absents. Cette opposition qui dénonce ses lancers mots, un fichier électoral taillé sur mesure, milite au sein du Front National pour la défense de la Constitution, un collectif qui vient de suspendre ses manifestations contre le projet de nouvelle Constitution. Lundi et mardi, des violences ont été signalées à Conakry et dans certaines villes du pays. Au total, 2 personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées et des dégâts matériels importants. Zakaria Camara pour VO Afrique, Conakry.
Au Mali, au moins 15 civils ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi dans un village Peul du centre du pays, une région marquée par des violences intercommunautaires ayant fait des centaines de morts ces dernières années, mais qui avait connu une accalmie depuis 6 mois. Au Bénin, ce sont 2 civils qui ont été tués et 6 policiers blessés lors de nouveaux affrontements qui ont éclaté mercredi entre les forces de l'ordre et des habitants de Savé, ville du centre du pays, fief de l'ancien président Boni Yayi. Il y a quelques jours, les chasseurs traditionnels avaient coupé la route nationale après l'arrestation d'un des leurs. En Gambie, des milliers de partisans de l'ancien président gambien qui a dirigé pendant 22 ans le pays d'une main de fer ont manifesté ce jeudi dans la capitale Banjul pour réclamer son retour d'exil. Les autorités de la Sierra Leone ont indiqué avoir relâché un détracteur du président du Libéria, George Weah, qu'elle retenait à la demande de Monrovia en raison d'enquêtes sur une falsification présumée de documents de voyage. Henri Costa, c'est son nom, a quitté la Sierra Leone ce jeudi pour les États-Unis où il vit une grande partie du temps. Aucune confirmation n'a été obtenue pour le moment depuis de son entourage. Au Nigeria, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest a libéré 5 travailleurs humanitaires qu'il avait enlevés en décembre dans le nord-est du pays en proie à une sanglante insurrection djihadiste. C'est ce qu'affirment des sources sécuritaires. En Côte d'Ivoire, un chargé contenant une 20aine de corps a été découvert le 13 janvier. Selon des sources judiciaires, c'est à Mans, dans l'ouest du pays, théâtre d'affrontements meurtriers, d'exactions des deux camps pendant la crise de 2002, que les squelettes ont été retrouvés. Le chef du gouvernement libyen d'Union nationale, M. Al-Sarraz, a annoncé sa participation à la conférence sur la Libye prévue dimanche à Berlin. Le point avec Abdourahman Dia.
Faiz Al-Sarraj a annoncé sa présence lors d'une réunion avec les membres de son gouvernement et d'autres militaires. Son rival, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, n'a pas encore confirmé sa participation. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, est arrivé ce jeudi à Benghazi pour le rencontrer. Selon l'ONU, la conférence de Berlin vise à mettre fin aux divisions internationales et aux ingérences étrangères en Libye. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé hier à soutenir fermement la conférence de paix pour la Libye et a invité les belligérants à confirmer la cessation des hostilités. Le GNA a signé un accord de cessez-le-feu à Moscou lundi à l'initiative de la Russie et de la Turquie, mais le maréchal Haftar ne l'a toujours pas signé. La trêve, entrée en vigueur dimanche, est relativement respectée malgré des accusations de violation venant des deux camps.
La Tunisie a regretté ne pas être conviée à la conférence internationale sur la Libye voisine prévue dimanche à Berlin pour tenter d'amorcer un processus de paix. Le quotidien Le Temps, d'ailleurs, a titré sur cette décision, jugée incompréhensible, déplorant un coup dur pour la diplomatie. Le Caire a exprimé ce jeudi son souhait de poursuivre ses efforts en vue d'un accord final après les progrès enregistrés dans les négociations entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan au sujet du grand barrage éthiopien sur le Nil Bleu. Mercredi, le Caire, Addis Abeba et Khartoum ont esquissé un compromis et se sont à nouveau donné rendez-vous fin janvier à Washington pour surmonter les dernières divergences. Le Soudan a nommé un nouveau chef des services de renseignement au lendemain de la démission de son prédécesseur après une mutinerie au sein de ses services. Un nombre record de 45 millions de personnes sont menacées par la famine en Afrique australe, d'après les Nations Unies. La responsable régionale du programme alimentaire mondial, Lola Castro, tire la sonnette d'alarme sur une situation qui peut empirer. Au Malawi, des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les 3 plus grandes villes du pays pour dénoncer la tentative de corruption de juges de la Cour constitutionnelle qui doit rendre un arrêt très attendu sur les élections de 2019. En Angola, rien ne va plus pour la famille de l'ancien président José Eduardo dos Santos. Son fils est en prison et jugé pour corruption. Les avoirs de sa fille aînée Isabel dos Santos sont bloqués. Le mandat de député d'une autre fille est suspendu. L'ancien chef de l'État est accusé par ses détracteurs d'avoir mis le pays et son économie en coupe réglée au profit de membres de sa famille et de proches.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les députés russes ont confirmé ce jeudi Mikhail Mishustin au poste de Premier ministre au lendemain de sa nomination surprise par Vladimir Poutine. Le nouveau Premier ministre dit vouloir impulser des changements en Russie. Les précisions de John Lyndon.
La nomination surprise de Mikhail Mishustin, jusque-là patron du fisc russe, est intervenue mercredi soir après la démission tout aussi surprenante du premier ministre Dmitri Medvedev dans la foulée d'une série de réformes voulues par Vladimir Poutine. Juste après sa nomination, M. Mishustin a expliqué dans un discours d'une dizaine de minutes que les gens doivent ressentir dès maintenant de réels changements pour le meilleur. Ce n'est pas encore le cas, a-t-il regretté. Il a promis de fidèlement mettre en œuvre le programme de M. Poutine, qui dirige la Russie depuis 20 ans. Se disant ouvert à une critique constructive, le nouveau chef du gouvernement a orienté son discours sur l'économie et le social, assurant que sa priorité était d'augmenter les salaires réels. Il a aussi dit souhaiter retrouver la confiance des milieux d'affaires et stimuler la croissance des investissements. Mikhail Mishustin, qui est considéré par beaucoup comme un chantre d'une modernisation et de la numérisation de la Russie, a passé sa matinée à rencontrer les différents groupes parlementaires. Pour la forme, sa nomination déjà approuvée par la Douma doit être officialisée par un décret présidentiel.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que son pays allait commencer dès que possible à faire des forages dans une zone contestée de la Méditerranée orientale riche en hydrocarbures, au risque d'aggraver les tensions. Dans ce contexte, l'accord conclu fin novembre à Istanbul par M. Erdogan et le chef du gouvernement de Tripoli, Fayez al-Sarraj, a suscité les vives critiques de plusieurs pays, notamment la Grèce et Chypre. Les talibans montrent une volonté de réduire la violence en Afghanistan après 19 ans de guerre contre les États-Unis et les forces afghanes, ce qui laisse entrevoir une nette avancée dans les pourparlers avec les Américains. C'est ce qu'a annoncé un ministre pakistanais. Islamabad, un allié américain dans sa guerre contre le terrorisme, s'est engagé depuis l'an passé à faciliter les négociations américano-talibanes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, c'est dans la Minute Éco avec Nani Talani.
La production aurifère industrielle du Mali a augmenté de 7% en 2019 pour atteindre un record de 65 tonnes selon le ministère malien des mines. Cette augmentation est due en partie au lancement de la production dans une mine appartenant à l'Australien Resolute Mining. La production d'or totale du Mali était d'environ 71 tonnes l'année dernière en raison des 6 tonnes supplémentaires que les mineurs artisanaux devraient produire chaque année. Le tribunal des prud'hommes de Paris condamne la Banque centrale populaire du Maroc à payer 4,2 millions d'euros à 18 de ses anciens salariés pour n'avoir pas versé leurs cotisations de retraite pendant des années en France. Selon la justice, la BCP n'a pas respecté la convention de sécurité sociale qui stipule qu'au-delà de 3 ans de travail consécutif, les salariés détachés sont soumis aux législations en vigueur sur leur lieu de travail. Dans les années 70, 80 et 90, la BCP a muté plusieurs de ses employés en Europe où ils travaillaient dans les consulats du Maroc dans l'illégalité la plus totale. Pour terminer, Telkom, le plus grand réseau de télécommunications fixes d'Afrique du Sud, pourrait supprimer jusqu'à 3 000 emplois sur plus de 15 000 à cause d'une baisse de performance. La société envisagera des indemnités de départ volontaire et de retraite anticipée pour les employés touchés par la première phase de la suppression d'emplois dans ses divisions Consumer et Open Serve de janvier à avril.
Place à présent à notre page sportive présentée ce soir par Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi. Cannes 2021, la CAF confirme les nouvelles dates des éliminatoires.
Oui, dès le mois de mars prochain, la suite des qualifications pour la Cannes 2021 avec les deuxième et troisième journées sur le continent. Puis le tournoi se poursuit en juin avec la cinquième journée. La sixième journée, elle se disputera donc fin août, début septembre. À l'issue de ces éliminatoires, débuteront celles de la Coupe du Monde 2022 en octobre avec la première journée et la deuxième journée en novembre. Le tirage au sort de la phase du groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 est lui prévu le 21 janvier prochain.
Foot, le Marocain Youssef El-Nesri signe à Séville.
Oui, l'attaquant de Leganés, âgé de 22 ans, a été recruté par Séville jusqu'en 2021. C'est en tout cas ce qu'a annoncé jeudi le club andalou. Le club ne donne pas le montant du transfert, mais la presse espagnole l'estime à environ 20 millions d'euros. Formé à Malaga, El-Nesri a disputé à 21 ans le mondial russe, marquant un but face à l'Espagne.
Quelques résultats de la NBA en basketball.
Oui, la 10e victoire de rang des Lakers n'a pas eu lieu. Le Magic s'est imposé à l'arraché 119 à 118 grâce au sang-froid remarquable du meneur Markel Fultz, 21 points, 11 rebonds, 10 passes. Les Lakers demeurent donc premiers à l'ouest devant Utah et Denver qui s'est imposé contre Charlotte 100 à 86. Mais a déploré la blessure à la cheville gauche de Jamal Murray, heureusement sans fracture. Dallas est sorti vainqueur à Sacramento, 127 à 123, et revers de Houston contre Portland, 117 à 109.
Et à l'Est?
Oui, derrière Milwaukee, les Heat redeviennent dauphins à la faveur de sa victoire face à San Antonio, 106 à 100. Combiné à la défaite surprise de Boston contre Détroit, 116 à 103. Dans un mouchoir de poche aux 4e, 5e et 6e places à l'Est, Raptors, Pacers et Sixers se sont imposés respectivement face à Oklahoma City, Minnesota et Brooklyn. Toronto l'a emporté 130 à 121 grâce aux 23 et 21 points de Norman Powell et Pascal Siakam. Marc Gasol, de retour de blessure, a ajouté 15 points, 6 rebonds, 5 passes décisives. Indiana est venu à bout des Timberwolves au 104 à 99 grâce au gros match du pivot lituanien Domantas Sabonis, 29 points, 13 rebonds et 6 passes, sans Joel Embiid, toujours blessé. Sans date de retour programmée, les 76ers ont pu compter sur Tobias Harris, 34 points, 10 rebonds, pour vaincre les Nets 107 à 106.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, toujours en votre compagnie. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. À présent, les dossiers du jour. En Guinée, c'est ce soir à minuit que la campagne pour les législatives du 16 février sera lancée. Selon la Commission électorale nationale indépendante, 29 partis politiques sont retenus pour le scrutin des listes nationales et 14 pour l'uninominal. Ce scrutin est boycotté par les principaux partis d'opposition qui ont aussi décidé de faire une pause dans les manifestations contre un éventuel troisième mandat pour le président Alpha Condé. Idriss Fall a recueilli la réaction de l'écrivain guinéen Tierno Monnembo, qui est aussi un professeur de mathématiques.
C'est normal, c'est légal, c'est légitime. En plus, je pense que c'est une très bonne stratégie. C'est bien sûr de violer tous les principes du droit et de la morale pour se traiter au pouvoir. On va le laisser faire tout seul. Nous, ça va le juger tout seul. Aucun d'entre nous n'est complice de cette mascarade-là. On laisse faire, on va voir jusqu'où il peut aller. Jusqu'où il va aller se finir. Il ne soutient pas cette opposition.
Mais la politique de la chaise vide n'a jamais rapporté gros. Hein. On a vu l'expérience du Togo déjà.
Vous savez, l'expérience de la chaise vide, la situation n'est pas exactement la même. Il y a un ras-le-bol général en Afrique. Les méthodes s'épuisent, les figures du président du pouvoir se raccourcissent. Tout ça compte, il y a un ras-le-bol du peuple. On va le laisser faire. Et je vous assure que ça paiera.
L'opposition accuse Alpha Condé de vouloir rester au pouvoir. Mais accuser, ce n'est pas une preuve.
Non, accuser n'est pas une preuve en tant que tel. Mais si jamais il était devant un tribunal, il ne manquait même pas de pièces à conviction. Tout de même, cet homme est au pouvoir depuis bientôt 10 ans, dans des conditions rocambolesques. Alpha Condé n'a jamais été élu président. Déjà, tout le monde le sait. Le monde entier le sait. La méthode du gouvernement rappelle celle de ses prédécesseurs. Voici un homme qui réunit à lui seul tous les travers de ses prédécesseurs. La cruauté de ses coutumes, la bégie de la salle à côté, série de la discamara, et c'est le racisme de cette bacconnette. C'est un président en un, il est tous de mauvaise qualité.
Mais on lui tient un procès d'intention quand même. Il a été élu, il n'a pas encore dit quelles sont ses intentions.
Tout le monde sait qu'il n'a jamais été élu. Il s'est passé 5 mois entre deux tours. Le fichier électoral était brûlé. 18% au premier tour. Il passe au second tour à 53%. Dans quelles conditions tout le monde le sait? Bon, on sait comment le président s'est élu.
Troisième mandat ou pas de troisième mandat? Il n'a rien dit.
Ne soyez pas naïf, monsieur. Excusez-moi. La première personne qui a parlé du troisième mandat était un autre fonctionnaire de police de Jéricho. Il a été immédiatement bombardé, conseiller à la présidence. Un autre en a parlé, il a aussi eu une promotion, etc. Et tout vient d'un certain nombre, c'est une mandance de longue date, ça. C'est un projet, un vieux projet unique, qui est en place depuis longtemps. Tout le monde sait qu'on a ses intentions. Il veut un troisième, voire même un quatrième mandat, ou un cinquième. Vous savez, c'est la tradition. C'est le Bongo, la tradition c'est le Yabima, tous autres amis. Hein. Et comme on dit ici chez nous, à force de fréquenter la bête, le bénéfice n'est pas senti la bête.
Tierno Monnembo, écrivain guinéen.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Le rapport mondial 2020 de Human Rights Watch attire l'attention sur la menace contre les organisations de défense des droits de l'homme et celles qui œuvrent pour la promotion de la liberté d'expression. En Afrique subsaharienne, certains États ont adopté des comportements dictatoriaux de plus en plus prononcés. Pour en parler, Eric Manirakiza, adjoint à Johannesburg, Karine Kaneza Nuntunia, directrice Afrique en charge du plaidoyer.
À travers l'Afrique subsaharienne en particulier, nous voyons déjà en rapport avec tout ce qui qui est les arrestations arbitraires que nous avons pu documenter, les disparitions forcées dont le nombre est très prononcé en 2019, des États qui ont toujours eu une certaine réputation d'États plus ou moins stables, comme la Tanzanie par exemple, mais qui maintenant sont quand même souvent identifiés, répertoriés comme des États qui utilisent la machine étatique pour justement museler la liberté d'expression. Et la deuxième raison tient au fait que quand même en 2020, nous allons avoir un certain nombre de gouvernements qui se préparent à organiser des élections. Nous avons,
vous voulez parler de la Guinée par exemple ?
Par exemple la Guinée, le Burundi, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Et ce sont des États qui ont traversé en 2019, mais même avant, des crises conflictuelles assez prononcées dues à une instabilité politique, à des abus des droits de l'homme liés à des opérations de contre-terrorisme, liées à des tensions intercommunautaires, des tensions qui ont d'ailleurs, dans certains cas, un certain accent qui présente des relents ethniques, et donc des sociétés fermées, des États qui se sont complètement fermés contre la communauté internationale comme le Burundi. Ça, c'est la deuxième raison. Et puis la troisième raison, elle est vraiment liée à la résilience de l'homme et de la femme africaine. Maintenant, nous avons, il faut le dire, il faut quand même relever le fait que nous avons un niveau d'alphabétisme relativement plus élevé.
Vous brossez un tableau globalement noir, mais il y a quand même des pays où les droits de l'homme s'améliorent.
Oui, je dirais qu'il y a des pays où quand même il y a un renouvellement, un changement au niveau de l'environnement sociopolitique. Des pays qui traversent par exemple en ce moment des transitions de leadership. Nous avons des pays comme le Soudan par exemple, où on voit une volonté politique de mettre en place des institutions dont le mandat justement sera d'analyser, de poursuivre, d'enquêter, de poursuivre, nous espérons, les responsables des abus présents et passés. Nous avons un pays comme l'Éthiopie où dès que le Premier ministre Abiy a pris le pouvoir, nous avons vu un relâchement d'un nombre élevé de prisonniers politiques. Nous voyons des États qui ont par exemple adopté des lois et des politiques progressives en termes des droits de l'homme. Et là, j'ai en tête des États comme le Mozambique qui vient d'adopter au mois de juillet 2019 une loi qui bannit en fait les mariages de filles mineures.
Karine Kaneza Nuntalia, directrice Afrique en charge du plaidoyer pour Human Rights Watch. Langue du commerce, de la science des affaires et de la diplomatie, l'anglais devient incontournable sur le continent africain. Le Gabon avait décidé il y a près de 8 ans de l'adopter comme deuxième langue officielle du pays. Où en est le projet ? Élément de réponse avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obionze.
Le bilinguisme est expérimenté avec des fortunes diverses dans bien des écoles gabonaises. Nous sommes ce matin des invités surprises d'une séance d'évaluation des jeunes apprenants dans l'un des établissements scolaires de Libreville. Les élèves sont jugés sur les techniques d'expression orale en anglais. Annie Fanguinoveni de la classe de seconde LE à Immaculée Conception nous parle de l'importance d'apprendre l'anglais.
I am interested in English because...
Je suis intéressé par l'anglais parce que c'est la langue la plus parlée au monde. C'est une belle langue et d'ailleurs tout le monde maîtrise l'anglais dans ma famille.
Pendant le cours auquel nous assistons, les échanges entre l'enseignant et les élèves se font exclusivement en anglais. C'est vrai, quelques-uns traînent encore le pas et assimilent difficilement leur cours. Reine Ogula est la voisine de salle d'Annie.
Compliqué. Je ne comprends pas bien. I don't understand.
L'enseignement scolaire de l'anglais connaît des obstacles. Pendi Pendi est professeur d'anglais à l'Institut Immaculée Conception de Libreville.
On n'a pas de vidéoprojecteur, on n'a pas de lecteur DVD, on n'a pas de tous les éléments qui pourraient nous amener aisément sur les enfants qui s'intéresseraient à l'anglais. Vraiment,
À l'initiative de ce projet d'adoption de l'anglais comme deuxième langue officielle du Gabon après le français, il y avait cette volonté politique exprimée au sommet de l'État, qui tarde à prendre corps. S'inspirant du modèle rwandais, le gouvernement avait même financé la formation des formateurs pour matérialiser le bilinguisme dès l'école primaire. Alain Mangwadi, enseignants, membre de la Fédération syndicale des enseignants.
Les collègues qui ont terminé leur formation sont revenus sans avoir obtenu leur diplôme. Et au lieu qu'ils soient affectés dans la formation des enseignants qui devraient par la suite enseigner dans l'établissement primaire, aujourd'hui ils sont affectés à l'IPN. Donc plus personne ne sait qu'est-ce qu'il est devenu exactement ce projet. Donc à notre niveau, aucun hologramme d'exécution n'a été établi. Là aussi, c'est un gros problème de la majorité des projets lancés par le gouvernement. Et nous constatons que ce projet, c'est un projet de plus qui a été lancé, qui n'a pas logiquement poursuivi son cours comme prévu.
Libreville, Ismaël Obionzé, VO Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la France et les pays du G5 Sahel veulent renforcer leur coopération militaire contre les attaques terroristes au Sahel. Les présidents de la région souhaitent aussi la poursuite de l'engagement militaire de la France au Sahel, alors que Paris avait demandé une clarification lors du sommet de Pau face aux critiques sur la présence française au Sahel. Comment renforcer cette coopération militaire pour venir à bout des groupes armés? Comment restaurer la confiance sur la présence militaire étrangère dans le Sahel? Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
La démocrate Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, a transmis hier soir au Sénat les chefs d'accusation du président Donald Trump. Cela ouvre la voie à un procès en vue de la destitution ou l'acquittement du président américain. Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, fait le point. Le récit est de Lionel Gaïma.
Dans une cérémonie rare et solennelle, la mise en accusation du président américain est passée de la Chambre des représentants au Sénat. Il a fallu une enquête parlementaire de 4 semaines qui s'est terminée le 18 décembre. La démocrate Nancy Pelosi occupe le perchoir de la chambre basse du Congrès américain.
La Chambre des représentants a mis en accusation le président des États-Unis. C'est un fait qui restera pour toujours.
Madame Pelosi a nommé 7 membres de la Chambre pour être le procureur au procès, dont le démocrate Adam Schiff, président de la commission du renseignement, et Jerry Nadler, président de la commission judiciaire de la Chambre.
De nouveaux documents et des témoins indiquent la culpabilité du président et nous avons exposé les efforts de certains membres de la majorité du Sénat de vouloir faire un semblant de procès. Le peuple américain comprend qu'un procès sans preuve, sans témoin, n'est pas un procès du tout, mais une dissimulation et ça ne passera pas.
Les démocrates tenteront de prouver que M. Trump a abusé du pouvoir lorsqu'il a encouragé l'ingérence étrangère dans les élections de 2020 lors d'un entretien téléphonique le 25 juillet avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Madame Pelosi a pris son temps pour envoyer les chefs d'accusation au Sénat dans une tentative infructueuse de forcer Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine du Sénat, à accepter des auditions de témoins. Mitch McConnell n'a jamais caché ses intentions.
Il ne s'agit pas de nuances sur l'aide à l'Europe de l'Est. Cela a toujours été purement partisan depuis le début.
Le sénateur du Kentucky précise que chaque parti devra présenter ses arguments avant que la question des témoins puisse être abordée. Une opinion soutenue par d'autres sénateurs républicains comme John Kennedy.
Une fois que nous savons réellement de quoi nous parlons en termes de preuves, de l'accusation et de la défense, nous pourrons prendre du recul et dire, devons-nous entendre des preuves supplémentaires et devons-nous entendre d'autres témoins?
La Maison-Blanche affirme que la défense du président sera si facile que ce procès ne durerait que 2 semaines.
Ils ont un canular et nous en prendrons soin comme tel.
Le dernier procès pour la destitution du président Bill Clinton en 1999 a duré plus d'un mois. Le processus au Sénat dominé par des républicains commence ce jeudi. Le juge John Roberts, chef de la Cour suprême des États-Unis, assermente les sénateurs qui seront chargés de juger le président Trump.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez télécharger et partager l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Georges Léonard Sagnot a assuré la mise en onde. Nick Ivanov était à la console, à la présentation et Kia Badou. Excellente suite au programme à l'écoute de VO Afrique.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.